Vous écoutez Radio Shalom sur le 94.8 FM.
94.8 FM.
Les deux suspects dans l'affaire Jérémy Cohen ont été mis en examen pour violence volontaire en réunion pour l'un des deux et violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner pour le deuxième. Ils sont actuellement en détention provisoire. Ils ont 27 et 23 ans et ils s'étaient présentés spontanément à la police avant d'être placés en garde à vue. Ils sont aujourd'hui suspectés d'avoir frappé Jérémy Cohen, ce jeune juif de banlieue, qui a ensuite été mortellement percuté, tout le monde le sait, par un tramway à Bobigny. Nous sommes en ligne avec le frère de Jérémy, avec Raphaël Cohen. Bonsoir à vous, Raphaël.
Bonsoir, Bernard.
Et avec Shana, qui dirige l'association Paul Maraire, parce qu'en fait, vous êtes un collectif, vous êtes réunis autour de cette association Paul Maraire, qui sous une forme d'entraide. Et Shana a eu, après, pendant quelques temps, le rôle de porte-parole de votre famille. Shana, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Raphaël, je voudrais avoir votre réaction sur un point qui est assez précis. Selon les suspects, les violences sont à mettre en lien avec le comportement de votre frère, le comportement de la victime, auquel ils auraient réagi en lui portant des coups. Et moi, je voudrais savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous entendez cette phrase comme une forme de mise en cause de votre frère, donc de la victime, en disant, finalement, les coups sont une réaction à son comportement. Est-ce que c'est comme ça que vous lisez le communiqué du procureur?
Eh bien, écoutez, je vous remercie de me poser cette question. Je vous avoue que nous avons été assez surpris par ce communiqué et qui me pousse aujourd'hui à réagir alors que je ne souhaite pas sortir de ma réserve médiatique. Donc, je voudrais vous faire part d'abord de mon étonnement sur ce communiqué de presse du procureur de Bobigny d'hier, du 14 avril 2022. D'abord concernant la kippa. Et contrairement à ce qui a été dit, mon frère était bien détenteur d'une kippa lorsqu'il était agressé par les racailles que l'on voit sur la vidéo. J'invite le procureur à rétablir la vérité sur ce point. Par ailleurs, malgré le fait que nous ayons transmis la vidéo du lynchage à l'inspection générale de la police nationale, l'IGPN, en date du 9 mars, le parquet n'a pas jugé utile d'ouvrir une information judiciaire pour homicide et a attendu jusqu'au 29 mars, 20 jours. J'invite le parquet à donner des précisions sur cette décision incompréhensible et qui laisse planer des zones d'ombre sur la gestion de cette affaire. Enfin, je m'étonne alors que seuls deux suspects sur la quinzaine observés ont actuellement été appréhendés. Le parquet de Bobigny s'autorise à commenter une affaire en cours d'instruction. N'est-il pas un risque, par cette démarche ambiguë, de faciliter l'accord des versions des autres suspects dans cette affaire? Je soulève ces questions et souhaite que les journalistes qui suivent cette affaire osent poser les vraies questions.
Alors, si vous voulez, on peut les faire toutes une par une. Et on va revenir sur cette forme de mise en cause. Je crois que c'est le mot juste de votre frère. Et déjà, je voudrais savoir, c'est le procureur qui endosse les propos de l'agresseur ou il ne fait que citer l'agresseur?
Bah écoutez, ça c'est une question qu'il faudrait lui poser directement. Je ne peux pas parler en son nom. Moi, ce que je sais simplement, c'est que là, on a une affaire qui est en cours d'instruction. On a sur une vidéo plus de 15 personnes qui sont impliquées dans une affaire d'homicide, de violence en réunion, une affaire extrêmement grave. On a, d'après les médias, deux suspects qui se sont rendus à la police. Donc, il y en a encore une bonne dizaine qui est en liberté. Et on a des communications qui sont faites sur ce qui aurait pu se passer ou je ne sais quoi.
Je crois par ailleurs que vous...
incompréhensible.
Ouais, je crois par ailleurs que vous l'avez appris par la presse, vous. Vous n'avez pas reçu une
lettre. Absolument.
Vous allumez votre radio un jour et vous dites « Ah tiens, j'apprends que le procureur a dit quelque chose. » C'est-à-dire qu'il a parlé à la presse avant vous, avant de vous parler à vous.
En fait, c'est tout à fait ça. On nous demande de rester dans la réserve médiatique, ce que l'on fait en fait, depuis qu'on est constitué partie civile. Et en parallèle, on a des communications dans la presse qui se font, où certaines choses sont dites. Voilà.
Raphaël, vous êtes sur Radio Shalom et il y a une affaire qui nous a profondément marqué ici à la rédaction, c'est l'affaire Sarah Halimi. Il y en a plein malheureusement. Ça a commencé avec, d'après moi, cette longue série d'agressions de juifs français, ça a commencé d'après moi avec Ilan Halimi. Est-ce que vous craignez un verdict qui, sous une forme ou sous une autre, de près, de loin, rappellerait Sarah Halimi? C'est-à-dire que le juge avait affirmé que l'assassin souffrait d'un trouble du discernement et que donc il était un peu, on va dire, déresponsabilisé. C'est-à-dire on avait minimisé, on avait même peut-être nié, moi c'est peut-être ça le mot juste, la responsabilité de l'assassin. Est-ce que vous, quand vous avez donc écouté votre poste de radio et entendu ça, est-ce que vous avez dit, on est en train de nous refaire un peu le même coup ou à quelque chose qui y ressemble?
Ben écoutez, d'abord sur l'affaire Sarah Halimi, moi j'avais appris avec effroi ce verdict. J'avais appris avec effroi avec l'ensemble de la classe politique, je pense, à gauche comme à droite, ainsi qu'au centre. Les voix s'étaient élevées de tous les côtés pour dénoncer une chose qui n'était pas compréhensible pour la plupart des gens. Donc mon sentiment aujourd'hui, c'est qu'on a des gens qui veulent faire leur travail, qui veulent faire avancer ce dossier. Et donc moi, j'ai pleine confiance en eux. Nous avons une confiance dans la justice de notre pays. Voilà, je vous le dis clairement. Je n'ai pas ce sentiment aujourd'hui d'abandon. Au contraire, je pense que on a une équipe d'enquêteurs formidables qui est en train de faire un travail incroyable pour faire avancer le dossier. Et je pense aussi qu'au niveau de la justice, il y a des gens qui veulent que la justice soit rendue et que la sécurité augmente dans notre pays. Donc aujourd'hui, je n'ai pas cette crainte. J'espère que le futur ne me donnera pas tort. Et je laisse aujourd'hui ma confiance au pouvoir public.
Alors, concernant maintenant le deuxième versant, d'abord, excusez-moi, je réalise que j'agis comme une sorte de personnage inélégant, puisque Shana n'a pas parlé. Shana, est-ce que vous voulez dire quelque chose en tant que présidente de l'association, du collectif ?
Effectivement, moi ce que j'aimerais dire, c'est que j'étais aussi choquée, étonnée par cette déclaration de M. le procureur. J'espère qu'on ne devient pas et qu'on n'est pas dans un pays de non-droit. Parce que demain, quelqu'un va, pour une raison X ou Y, dire un mot de travers, regarder quelqu'un de travers, allez, on va le lyncher, on va le tuer. Moi, ça me fait peur.
Donc vous êtes un peu sur une ligne un petit peu plus inquiète que Raphaël.
Je ne suis pas plus inquiète, je fais confiance aux autorités, vous savez. J'ai confiance en notre pays, j'ai confiance aux autorités. J'aimerais que ça soit entendu. Et je voudrais reprendre quelque chose. Est-ce que le procureur a parlé de cette fameuse kippa, non ?
Alors,
il fait des communiqués
ça,
presse.
Je voulais avoir votre avis sur ce qu'on vient de dire maintenant. Mais bien sûr, je vais me tourner maintenant vers Raphaël. Raphaël, le deuxième élément, c'est les qualifications ou non d'antisémitisme. Alors, votre maman avait fait une conférence de presse il y a quelques jours dans laquelle elle disait « Nous sommes dans l'expectative, nous verrons, nous n'avons pas d'a priori concernant la qualification ou non d'antisémitisme. » C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire si Jérémy a été frappé parce qu'il est juif ou pas. Mais il y a quelque chose qui vous inquiète, et là, pour le coup, vous êtes revenu dessus il y a quelques minutes, c'est que pourquoi on dit qu'il n'était pas, il n'avait pas de kippa, donc un habit clairement reconnaissable, une forme d'un couvre-chef clairement reconnaissable comme étant juif.
Et vous dites pourquoi. Attends, je ne dis pas qu'il l'avait sur la tête, encore une fois, comme je l'avais dit précédemment.
D'accord.
Je sais pas si c'était. Mais sur lui, c'était, voilà, c'était bien sur lui, comme notre avocat l'a d'ailleurs précisé, enfoui dans une de ses poches ou pas, c'est à l'enquête de le déterminer. Mais moi, ce que je veux, c'est que ce soit officialisé. Jusqu'à présent, on explique qu'il n'y a rien qui montre qu'il était détenteur. Eh bien si, moi je le dis, je le redis, il était détenteur d'une kippa qui a été remise par l'APHP à mes parents avec ses habits, après son décès. Donc à moins que l'APHP ait trouvé cette kippa et ait décidé de leur donner pour je ne sais quelle raison, ça pose des questions sur la manière dont on présente les choses. Mes parents ont d'ailleurs reconnu sa kippa. Donc c'est bien la sienne.
Mais Radio Shalom a interrogé un ami de fac de votre frère. Ils étaient ensemble, ils dormaient dans la même chambre. Et il nous a dit, mais Jérémy, il était religieux. Hein. C'est quelqu'un qui avait tout le temps la kippa. C'est pas comme beaucoup de gens traditionnels. Il méditait la kippa tout le temps. Et c'était le bien cas sûr. Aussi quand il. Oui, vous confirmez
c'était,
ça aussi.
C'était quelqu'un de pratiquant qui avait un respect du judaïsme. Après, au vu de la situation des juifs dans le quotidien que vous connaissez, c'est possible que dans certaines situations.
Voilà, c'est ça.
Il a pris des dispositions pour sa sécurité.
Voilà, vous avez effectivement anticipé ma question. Ou bien, est-ce que quand il sort le soir à Bobigny, il l'enlève, quoi ? Comme font énormément de gens. On met une casquette ou on enlève la kippa, tout simplement. Ça, c'est possible.
Pour nous, bien sûr, c'est possible. On n'a jamais exclu et on n'exclut pas aujourd'hui. Mais ce qu'on demande, c'est qu'on n'exclue pas l'autre possibilité aussi à un stade aussi précoce. Vous voyez, c'est ça qui est juste incroyable, alors qu'on n'a même pas tous les suspects, qu'on est en pleine enquête. on envoie des informations comme ça. C'est juste ahurissant ce qui me concerne.
Raphaël, je vais vous raconter une anecdote qui s'est passée à l'antenne pour clore notre conversation. Hier, j'ai reçu un jeune, Ilan, il s'appelle, et il s'est battu parce que la médecine, nous dit-il, les médecins, voulaient débrancher son père à l'hôpital. Et lui, il disait non, je ne veux pas. Et ensuite, je n'accepte pas que vous vouliez mettre fin à la vie de mon père contre ma volonté, contre la volonté de la famille qui est unanime. Déjà, je ne vois pas comment vous avez le droit de faire une chose pareille, de mettre fin à la vie de quelqu'un, d'un être humain, et deuxièmement, encore plus contre la vie de la famille. Il s'est battu. Et ça a duré des semaines. Et le juge lui a donné raison, finalement. Il dit, on ne peut pas faire ça. Et donc, il a eu gain de cause. Et je lui ai dit hier, Raphaël, vous savez, là, aujourd'hui, on est veille de Pessah. Quand on est devant la mer, il y a plusieurs solutions. Soit on se rend, on dit aux Égyptiens, bah, excusez-nous, fin de cavale, on va retourner en Égypte, on va redevenir esclave. Peut-être on se bat, mais on sait que, en fait, ça sera un combat qui est totalement inégal. Peut-être on se rend, et peut-être même on se suicide. Mais il y a une autre solution. C'est la solution de Nachshon, qui dit non, on va aller dans la mer, Dieu va nous aider, on va avancer, et on va gagner. Et je vous dis à vous, Raphaël, comme je l'ai dit hier à Ilan, moi j'ai l'impression que vous, vous êtes des Nachshon. Ce que vous avez fait, seul contre tous, vous avez décidé seul contre tous qu'il n'y a pas de fatalité et que vous, vous pouvez le faire. Et vraiment, je trouve votre histoire très belle et à la fois très émouvante.
Moi, Bernard, ce qui me touche, c'est que malgré toutes les épreuves que cette famille a subies et a passées, depuis le départ, ils ont une phrase. On a confiance en notre pays, on a confiance aux autorités et on a confiance à la police.
Ok, bah si ce sera le mot de la fin, ce sera le mot de la fin. Raphaël, vous êtes d'accord pour que ce soit le mot de la fin ?
Merci Bernard, ben, votre histoire m'a profondément touché. Je tiens à vous le dire en même temps que je vous écoutais, j'avais des frissons. Et je pense que vous avez vous-même répondu à la question que vous me posiez sur la justice. La justice dévoile la vérité, parce qu'on lui donne les éléments. Donc donnons-lui les éléments, donnons-lui les moyens d'aller jusqu'au bout de son enquête. Voilà.
Je vous souhaite de bonnes fêtes, si je puis dire. Je vous souhaite Rak Sameach, Raphaël Cohen, ainsi que Shana.
Rak Sameach, Bernard, et à toute la communauté, bien sûr.
Et merci à Radio Shalom de m'avoir donné la parole pour la seconde fois et nous avoir permis de médiatiser cette affaire.
On sera toujours avec la famille, c'est juste certain. Bonsoir à vous les amis et Shabbat Shalom.
Sur votre téléphone portable, retrouvez-nous en téléchargeant l'application Radio Shalom ou en cliquant sur radioshalom.fr.